Amen, 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 amen. Dieu fait toutes choses à merveille dans nos vies. Alléluia. Avant-dernière soirée, comme je le disais, ça passe vite. Ce soir, on va voir quelque chose de vraiment très concret que tout le monde connaît, la résolution des conflits. On va voir ce soir quelque chose de très pratique. Et ce que j'aimerais dire en introduction, c'est que nous avons donné notre vie à Dieu et cette vie-là, elle est faite pour être transformée. Elle est en chantier. Et jusqu'au bout de notre vie, on sera en chantier. Et un des moyens de faire avancer le chantier, c'est de voir là où il y a besoin de travailler. Et comment mettre en évidence là où il y a besoin de travailler? Eh bien, c'est dans les conflits. C'est dans les difficultés. Là où c'est difficile. Parce que c'est là où ça fait mal. Et c'est là où ça veut dire qu'on doit travailler sur nous-mêmes. Si la caractéristique du fondement du mariage se détermine par le travail sur soi, on a vu ça la première fois. La communication et l'écoute la semaine dernière, on a vu qu'on travaille sur la patience et la douceur. La patience et la douceur. On a besoin de patience pour savoir écouter l'autre, ne pas l'interrompre, ne pas se laisser embarquer par les émotions. Avoir une maîtrise de soi des émotions pour pouvoir laisser parler l'autre. Parce que si les émotions prennent le dessus, alors on prend la parole et alors on ne s'entend plus. C'est une cacophonie. Et chacun va essayer d'argumenter à sa manière. Et résultat des courses, les deux perdent. Troisième chose, c'est ce qu'on va voir ce soir. La résolution des conflits fait appel à la maîtrise de soi. Fait appel à ce fruit de l'esprit. Qui est la maîtrise de soi. On ne laisse pas les émotions nous dominer, on ne laisse pas la colère prendre le dessus, on ne laisse pas l'irritation prendre le dessus, mais au contraire, on est dans une maîtrise de soi par le fruit de l'esprit et donc à partir de l'amour. Hein, parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et donc tous ces fruits que Dieu nous a donnés, ils se mettent en application dans nos relations les uns avec les autres, mais ils ont comme fondement, comme mobile, l'amour. C'est parce que nous sommes branchés à la bonne source, à la source de l'amour de Dieu, que nous pouvons exprimer la patience, la douceur, la maîtrise de soi. On ne peut pas par nos propres forces, mais on peut parce qu'on cultive une relation avec Dieu, une relation intime. J'ai enseigné dernièrement sur Ginosko. Ginosko, c'est fondamental. Ginosko, c'est le mot qui dit, c'est Jésus parle et qui dit, l'important, Seigneur, c'est qu'ils aient une relation avec toi, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent, c'est-à-dire avoir cette relation unique, une relation qu'on ne peut pas avoir avec un être humain, mais une relation guérissante, une relation où on vit, on ressent l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Et c'est important d'avoir ce principe-là en conscience. C'est important de comprendre ça, parce que nous serons toujours déçus par les êtres humains. Par les êtres humains, par nous-mêmes, par ceux qui nous entourent, on sera toujours déçus. Et il faut comprendre ça. Et donc ça veut dire que si on n'est pas branché à la bonne source, et si on n'a pas un endroit où on peut venir se réfugier quand ça va mal, Quand on n'est pas compris, quand c'est injuste, si on n'a pas un endroit où on peut se réfugier, eh ben, on n'arrivera pas à avoir cette maîtrise de soi. On n'arrivera pas à vivre en paix malgré le conflit, malgré les incompréhensions, malgré les injustices. Nous serons victimes d'injustices toute cette vie. Il faut faire la paix avec ça. D'accord ? Mais ce qui est extraordinaire en Jésus-Christ, c'est qu'on peut transcender tout ça. C'est-à-dire que malgré ça, malgré cette réalité, on peut vivre dans la paix, on peut vivre dans l'amour. Ce n'est pas une chimère, ce n'est pas quelque chose qui est réservé pour des chrétiens radicaux complètement fous. C'est ce que Jésus est venu apporter. Il est venu apporter la paix, une paix que le monde ne connaît pas. Mais il y a une condition, c'est qu'il faut être branché tout le temps à la source de Dieu. Chaque instant de ma vie. Parce que si je compte sur moi-même, je vais pas réussir. Alors je vais peut-être me forcer, je vais peut-être faire... Calme-toi. Je vais peut-être réussir pendant un instant, peut-être une journée, allez, peut-être une semaine. Mais à un moment, la marmite, elle va sauter. Elle va exploser. C'est parce que je suis pas branché à la bonne source. Il faut que je reçoive cet amour de Dieu, cet amour inconditionnel qui te fait croire et qui te fait penser sérieusement à cause de ta foi que tu es quelqu'un d'important, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si tu es rejeté dans ce monde, mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Et que tu n'as pas, tu n'es plus obligé de te battre, tu n'es plus obligé de faire des choses pour prouver que tu as de la valeur. Non, tu as été accepté par Dieu, tu as de la valeur en Jésus-Christ. Et ça se cultive tous les jours. Parce que quand tu vas recevoir des reproches, quand tu vas recevoir des insultes, quand tu vas vivre l'injustice, c'est là que tu as besoin de te raccrocher à ce que tu crois vraiment. J'ai de la valeur auprès de toi, Seigneur. Tu sais ce que je fais, tu sais ce que je donne. Et c'est ça qui compte. Et tant pis si les autres ne comprennent pas. C'est pas grave. Parce que ça, c'est impossible. On ne peut pas l'exiger. Vous comprenez ça? On ne peut pas le demander. On peut l'espérer.
Mais nous sommes dans un monde injuste. C'est fondamental ce que je vous dis. Si vous ne comprenez pas ça, vous serez toujours en train de vous poser des questions. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Je fais le bien et je récolte le mal. Je fais dans ma famille plein de choses, je ne suis pas reconnu. C'est comme ça. On ne peut pas demander la justice à ce niveau-là. On a affaire à des êtres humains qui sont blessés, nous sommes blessés, on se blesse, et c'est la vie, c'est comme ça. Mais heureusement, on a un endroit, on a un refuge. Le refuge, les bras du Père. La justice de Dieu, les bras du Père. Où à chaque fois qu'on sent que là, l'irritation est en train de nous gagner. On sent que là, il y a une colère qui arrive parce que tout ce qui se passe, c'est pas normal, c'est pas juste, etc. C'est là, à ce moment-là, qu'il faut être lucide. Et c'est là qu'il faut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Là, j'ai besoin de toi. Et je viens me réfugier dans tes bras. Et là, si vous faites ça, là, les enseignements vont porter du fruit à long terme. C'est pas un coup d'émotion où là on a été boosté et puis là on y va et puis les coups arrivent puis je perds ma niaque, je perds mon enthousiasme, tout ce que j'ai acquis se perd parce que je repose ça sur mes propres forces. Non, on est en relation avec Dieu, continuellement on a cette place, on a ce refuge qui permet d'encaisser les coups, qui permet de prendre les coups. Et on prend tous des coups. Et si on veut durer dans le temps, si on veut être un petit peu comme imperméable à ces coups-là, il nous faut ce refuge. Il nous faut aller dans ce refuge. Avant, on allait dans notre grotte quand on ne connaissait pas le Seigneur. On allait dans notre grotte. On allait bouder. On allait pleurer. On allait en colère. On allait dans notre grotte. Mais aujourd'hui, on a des bras qui nous accueillent. Amen. Et c'est mieux que la grotte. Parce que la grotte, ça devient dur. La grotte, c'est l'endroit froid, l'endroit glacial, l'endroit où on s'endurcit, l'endroit où on dit, c'est bon, j'ai compris, maintenant je vais compter sur moi. Maintenant, ok, j'ai vu, je vais apprendre à me battre. Ok, maintenant, j'ai compris. Et tu deviens dur, et tu t'endurcis, et tu te fais des murs, et tu n'es plus capable d'aimer, tu n'es plus capable de recevoir l'amour. Parce que tu as appris à être autosuffisant. Et dans l'intimité, c'est compliqué pour toi. Parce qu'il faut faire confiance à quelqu'un. Et là, tu as tellement appris à t'emmurer, tu as tellement appris à dépendre de toi, que là, tu ne sais plus comment faire. Tu as besoin d'avoir ce cœur qui a fait confiance à Dieu et qui dit, avec toi, Seigneur, je suis en sécurité. Je peux m'ouvrir parce que j'ai ce refuge maintenant. Je m'ouvre. Ça ne veut pas dire que je ne prendrai plus de coups. Mais j'ai un refuge. Amen. Les désaccords sont inévitables dans le couple parce que nous sommes différents. Des différences d'éducation, de caractère, d'aspiration, de goût, etc. Nous ne sommes pas tous au même niveau de restauration et de guérison de nos blessures. Dans nos familles, dans nos relations, on n'a pas tous vécu les mêmes choses. On n'a pas tous reçu la guérison. Il y en a qui sont à fleur de peau. Il y en a encore qui sont blessés. Et dès que tu les approches, tu sens qu'ils sont encore là, prêts à te sauter dessus. C'est comme ça. Nous ne sommes pas tous au même niveau de restauration, mais ils sont appelés à diminuer en fréquence et en intensité. Les conflits pour des chrétiens qui ont donné leur vie à Dieu sont appelés à baisser en intensité. D'accord ? En intensité et en fréquence. C'est-à-dire que petit à petit, parce que je suis en chantier, parce que Dieu travaille en moi, parce que moi je guéris, que petit à petit je rentre dans son cœur, ce cœur d'amour, ce cœur de Dieu, petit à petit, eh ben, comme je me guéris, je suis moins sensible aux attaques, je suis moins sensible à l'incompréhension, je suis moins sensible à l'injustice. C'est ça la transformation. Avant, j'ai été à la conversion. On m'aurait parlé comme ça, on m'aurait dit comme ça, j'aurais sauté sur le gars, j'aurais étranglé. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Et pourtant, c'est les mêmes choses. Mais Dieu change le cœur. Dieu te donne un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. L'amour, rappelez-vous, quand on a commencé, on a fait une définition de l'amour. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre. C'est que nous, on est là pour faire gagner notre couple. Les conflits sont là pour tuer le couple. Et donc, les conflits sont appelés à se résoudre petit à petit, à changer notre interprétation des choses. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est, pour nous, c'est un effort constant et persistant de ma part, le don de soi. Je suis là pour l'autre, je suis là pour mon couple. Et c'est un effort afin de créer pour mon conjoint le contexte propice pour qu'il devienne ce que Dieu veut qu'il soit, c'est-à-dire une personne épanouie. Voilà la définition de l'amour. Elle n'a rien à voir avec l'amour Hollywood. Ça n'a rien à voir avec l'amour égoïste. C'est un amour du don de soi. Je me donne à l'autre pour que l'autre soit dans les meilleures conditions pour qu'il soit épanoui. Et l'autre fait pareil avec moi. Il y a des sensibilités qui ne sont pas encore guéries. Je fais attention dans la manière que je parle à l'autre. Je fais attention dans la manière d'aborder les choses. Pourquoi ? Parce que je veux qu'il soit une personne épanouie avec moi. Je veux être un plus pour mon conjoint, pas un moins. Et l'autre, c'est pareil. L'autre fait le même travail. Donc, on est dans cet amour-là et qui fait que on va le ressentir dans le conflit. Dans le conflit, c'est pas que je gagne, c'est pas que j'ai raison. Dans le conflit, c'est que le couple gagne. Merci. C'est ça qui compte. C'est qu'on travaille tous les deux. Eh bien, si je dois avoir tort, eh bien, je dois avoir tort. Parce que si j'ai tort, c'est au profit de mon couple. On n'est plus là à essayer d'avoir raison parce qu'on n'est pas encore guéri et qu'il faut de l'approbation et il faut que j'ai raison à tout prix et que je suis encore dans mes patterns, je suis encore dans mes systèmes de défense. Il faut grandir. On a besoin d'être épanoui, on a besoin de grandir. Donc on va quitter petit à petit ces mécanismes de défense dans le couple. Dans le couple. Le couple, ça va être l'endroit de paix, un endroit d'amour, un endroit où on se sent aimé. Pas un endroit de guerre, pas un endroit de bagarre, pas un endroit de combat, j'ai raison, t'as tort. Non! Le couple, c'est l'endroit où on essaye de se comprendre. C'est difficile, parce qu'on est différent, parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même éducation, on n'a pas reçu les mêmes blessures, on n'a pas reçu les mêmes coups. Oui, je peux le comprendre. Il y a un travail qui se fait. Et c'est le travail sur soi. La résolution des conflits, s'il fallait le mettre à un endroit précis dans la Bible, il viendrait dans le sermon sur la montagne, dans la paille et la poutre. Il viendrait là. Dans un conflit, j'ai deux solutions. Ou je regarde la paille dans l'œil de mon voisin et je dis, t'as tort, j'ai raison. Ou je regarde ma poutre. Et là, ça va tout changer. Soit je prends le chemin de l'orgueil et je dis, non, ben, c'est pas à moi de venir te demander pardon. C'est pas à moi. Moi, j'ai raison. Je peux choisir l'orgueil. Et dans ce cas-là, le couple y perd. Et je peux choisir l'humilité. Et l'humilité, c'est de dire, ok, peut-être que j'ai raison sur le fond, peut-être qu'il y a des arguments, j'ai raison. Mais Si j'ai blessé l'autre, alors j'ai tort. Si j'ai blessé l'autre, alors j'ai tort. La Bible dit ne sois pas une pierre d'achoppement pour l'autre. Et là, tu ne peux pas dire « Ouais, mais regarde, il est encore blessé avec ci. Ouais, mais regarde, c'est encore ci, c'est encore ça. » Hé ! Le don de l'amour. Ok ? Tu es avec quelqu'un qui a sa propre vie, ses propres histoires, et c'est à toi de t'adapter à cette personne-là. C'est ça le don de soi. Là on ne joue pas aux chrétiens, là. On est chrétien. Et c'est Christ qui vit en nous. Et je ne peux pas dire que je ne peux pas. Parce que si je dis que je ne peux pas, mais ça veut dire que je mène ma vie et que c'est pas Dieu qui mène ma vie. Mais si je dis que c'est Dieu qui mène ma vie, alors tout est possible. Tout est possible. Je peux écouter mon conjoint, je peux faire du cœur à cœur avec mon conjoint, je peux comprendre mon conjoint et je peux dire ok, et c'est à moi de m'adapter à mon conjoint. De la même manière que l'autre s'adapte aussi à toi, à tes propres histoires, à tes propres traumatismes, à tes propres difficultés. C'est comme ça qu'on se comprend, sans jugement. Juste pour que tu sois une personne épanouie avec moi. Et là, c'est pas du blablabla. Tu vois ? Là, c'est pas du amour Hollywood. Là, c'est du amour concret. Là, c'est du amour qui coûte quelque chose. Vous savez ce que ça coûte ? La mort à soi-même. Eh oui ! Mais là, on est dans la Bible. Là, on est... Le Seigneur a dit, si tu veux me suivre, viens avec moi, mais porte ta croix. Tu vas mourir à toi-même. Et nous, on a dit oui, mais on ne savait pas ce que ça impliquait. Mais dans le couple, tu le vois. Pourquoi ? Parce que tu es avec quelqu'un qui est différent de toi. Vous savez, ça fait quoi ? Ça nous énerve. Ça nous agace. Ça nous irrite. Parce qu'il ne fonctionne pas comme moi. C'est ça la réalité. Et alors, tu fais quoi ? Tu es dans le conflit perpétuellement ou tu essaies de t'adapter ? À l'autre. Ces différences qui sont source d'agacement, d'irritabilité, d'énervement, vont justement mettre en lumière les domaines où je dois demander à Dieu de m'aider à transformer mes manières de faire, de penser, de parler qui ne sont pas adaptées à mon couple. Amen. Notre couple, il est unique. On n'a pas deux couples pareils. Notre couple est unique. Et moi, je suis en train de travailler pour que mon couple devienne cette belle personne, épanouie. Il n'y a pas que moi qui est en jeu. Il y a mon couple qui est en jeu. On quittera son père et sa mère pour devenir quelque chose de nouveau. Tu comprends ? On crée quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un moi que améliorer. C'est quelque chose de nouveau qui se crée avec deux êtres différents. Appelés à se comprendre. Appelés à s'aimer dans leurs différences. Et j'ai besoin, moi, quand je vais voir que là, il y a de la résistance, et bien c'est là que je vois ma poutre. C'est là que je vois que j'ai besoin de travailler. La solution la plus simple, c'est de dire, mais on voit comment elle est différente. Mais c'est pas normal d'être différent comme ça, quand même. Ça, c'est facile à dire, ça. Moi, j'ai raison. Mais regarde, c'est quand même logique ce que je suis en train de dire. Mais l'autre n'est pas bien. C'est le problème. Ça, c'est facile. Et c'est plus difficile. C'est de dire, Seigneur, je dois changer pour m'adapter à mon conjoint. Là, il y a du travail à faire. Là, on met en évidence. Et là, on met en évidence parce qu'on n'est pas orgueilleux. On est humble. Et on dit, Seigneur, pour mon couple, là, j'ai de la résistance. Ça veut dire que j'ai un problème. On arrête de s'occuper des problèmes de l'autre. L'autre, il est chrétien. L'autre, il fait le même travail. Il fait le travail avec Dieu et il dit, Seigneur, tu vois, je ressens encore des choses là. Ah, ça vient de mon enfance. Ça vient des choses que je n'ai pas lâchées encore. Ça vient, ça c'est ton problème, c'est ton histoire que tu règles avec le Seigneur. Tu vois, d'accord ? Mais ne rends pas ton conjoint coupable de ça. Travaille là-dessus, tout est possible avec le Seigneur. Le Seigneur, il a transformé des bandits, des voleurs, des violeurs. Il a transformé des êtres. Il a changé leur cœur. Tout est possible. Tu comprends? Et nous, on est appelé à changer. On est appelé à être transformé pour que protéger notre couple, embellir notre couple. Notre couple ne souffre pas de nos dysfonctionnements et on arrête d'emmener de dysfonctionnements dans notre couple parce que ça va pourrir la situation, tout ça. Donc, on a besoin de travailler sur nous, chacun. Et c'est comme ça qu'on va grandir. C'est comme ça que le couple va grandir, tu vois, en travaillant sur nous. On est appelé à avoir ce cœur, tu vois, où, comme un puzzle, Dieu travaille les pièces. Tu vois, comme je l'ai dit la première fois, l'histoire du puzzle, c'est intéressant. Parce que le puzzle, c'est des pièces qui s'entremêlent, qui viennent se mettre les unes dans les autres, tu vois. Sauf que quand on achète le puzzle, il est tout prêt, il est fait comme ça. Mais nous, le puzzle de Dieu, et les pièces ne sont pas faites naturellement pour entrer les unes dans les autres. Donc le Seigneur va les usiner. Si on le laisse faire, on dit « Seigneur, j'ai besoin que tu usines ma pièce là pour qu'elle rentre dans la pièce de ma femme, tu vois, et pour faire une seule chair, pour faire un seul cœur. » C'est ça le but du jeu. Et c'est pas par nos propres forces, c'est pas en essayant de pousser par nos propres forces. Non, c'est par l'Esprit de Dieu qui nous change, qui nous transforme et qui fait que avant, là où j'étais dur, là où c'était raide, là où il y avait une épine, là où il y avait un coin dur, Dieu est venu l'arrondir. Et maintenant, ça rentre dans la pièce de l'autre. Amen. C'est ça le travail. Tu vois. Et pour ça, le conflit, il est bon pour ça, le conflit, dans le sens que si on l'utilise bien, si on dit « Seigneur, pourquoi c'est encore si difficile pour moi quand on a ce genre de conversation? Pourquoi c'est encore si difficile pour moi quand on n'est pas d'accord dans cette vision ?» Travaille là-dessus. Les deux vont travailler là-dessus. L'important, c'est de trouver un accord. Pour les deux parties. Pas moi j'ai raison, toi t'as tort. Ça c'est pour le monde. Mais pour nous, c'est pas cette mentalité-là. C'est de dire, waouh Seigneur, j'ai encore à changer dans ce domaine-là. Il y a beaucoup d'humilité là-dedans. Beaucoup, beaucoup d'humilité. Ces différences, elles peuvent se manifester concrètement dans nos journées, dans des conversations bénignes. Par exemple, regardez les différences d'approche qu'on va voir. Tous les jours, j'en ai pris quelques-uns. Une femme dira à un homme, c'est toujours moi qui lave la voiture. Ou, c'est toujours moi qui mets de l'essence. Ou, c'est toujours moi qui arrose. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a une émotion avec une envolée. Vous voyez, c'est toujours moi qui fais. Voilà. Il y a de l'émotion. Tu vois. Et le gars qui est rationnel, lui, il entend le mot toujours. Et il fait, mais quand même, elle exagère. Il y a 15 jours, c'est moi qui ai lavé la voiture. En fait, les grilles de lecture d'un homme et d'une femme sont différentes. La femme va avoir tendance à exagérer dans ses propos. Et le gars, lui, il prend ça au premier degré. Et donc, les conversations, ils s'enveniment pour rien. Parce que la femme a dit, ouais, c'est toujours moi qui fais ça. Et moi, rappelle, il y a un mois, c'est moi qui l'a fait. Tu l'as fait? Je suis même pas sûr que tu l'as fait. Et on va se disputer pour des choses comme ça. Elle cherche seulement à dire qu'il lui semble qu'elle le fait très souvent, même peut-être trop souvent. C'est un petit reproche. Tu vois. Alors que l'homme entendra précisément ce qu'elle dit, toujours, c'est-à-dire sans exception. Et il trouvera qu'elle exagère. Un autre exemple. Elle explique à son mari que ce matin, elle est devant le dressing. Vous voyez, ça c'est un cas classique des femmes. Elle est devant le dressing, tu vois. Et puis là, elle dit à son mari, elle n'a rien à se mettre. C'est sincère pour elle. Elle dit ça, elle n'a rien à se mettre, tu vois. Alors qu'elle est devant son dressing qui est plein à craquer. Tu vois. Et que lui, et le pauvre, il a trois chemises et deux pantalons qui se battent en duel. Et lui, il a l'habitude de se débrouiller avec ça. D'accord. Et là, il ne comprend pas. Il voit tout ça. Il dit, quoi? T'as rien à mettre tout ce qu'il y a là. Elle est simplement en train de lui dire, c'est dans l'émotion. Elle lui dit, je ne sais pas quoi me mettre ce matin. Mais lui, il n'entend pas ça. Il entend. Mais je ne comprends pas là. T'as tout ça à te mettre. Ouais. Des genres d'interprétations différentes. On appelle ça des grilles de lecture. Et nos grilles de lecture, ils sont différentes. Et souvent, c'est la base de nos quiproquos. Tu as dit ça. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Tu as fait ça. Ah, je n'ai jamais dit ça. À l'instant, je dis à Erland, les clés sont sur la porte. Elle a entendu. Les clés sont sur la table. Donc, elle n'est pas contente. Parce qu'elle a dit, les clés ne sont pas là. Je dis, si, les clés sont là, viens voir. Ils sont là. Ben, ils sont sur la porte. Mais non, tu m'as pas dit sur la porte. Tu m'as dit sur la table. Mais non, j'ai pas dit sur la table, j'ai dit sur la porte.
Moi, j'ai compris la table.
Voilà. Ouais, ouais, ce genre de truc là. Alors, ça paraît pas.
Mais
ça là, si tu le dis avec un ton, tu vois, un peu qui écrase l'autre, essayez, t'es parti pour une histoire. Pour une broutille au départ. Mais c'est parce que, tu vois, on n'est pas à la bonne place. On se sent attaqué. Tu vois. Parce que si je décrypte tout ça, c'est. Je suis pas fou. Hein, premièrement, je suis pas fou. Je t'ai dit que j'ai mis sur la porte. Donc je suis pas fou. Et l'autre, mais tout ça, c'est pas dit dans la conversation, tu vois. Et en arrière-plan, c'est. Mais tu me prends pour qui? Moi, tu m'as dit, j'ai bien entendu, hein, je suis pas folle. Tu m'as dit, c'est sur la table. Donc, qui est fou? Qui est folle? Donc, on se sent diminué. Et c'est inconscient. Tu vois, pourquoi on s'énerve? C'est parce qu'on se sent diminué, parce que l'autre ne croit pas. Il ne croit pas. Je t'ai dit que j'ai mis sur la porte. Mais non, tu m'as pas dit sur la porte. Ça paraît simple. Mais voilà le genre de conversation de base, parce que derrière, il y a de l'insécurité. Derrière, on n'est pas à notre place. On est encore orphelin. Tu vois? Et on est à nos systèmes de défense. Tu vois? Tu dis, non, je t'assure, je te dis. Nous apportons dans notre couple nos différences d'éducation, de caractère, des caractères bouillants, des caractères qui partent au quart de tour. Tu vois, d'autres qui sont beaucoup plus calmes. Tu vois, mais l'autre qui part au quart de tour. Des aspirations, les goûts. En fait, faut retenir notre grille de lecture. J'appelle ça la grille de lecture parce que c'est quoi une grille de lecture? C'est il y a quelque chose, un événement, n'importe quoi. Tu apportes une grille. C'est-à-dire une grille de lecture. C'est-à-dire que tu décodes. C'est ton décodage. Et ton décodage, il est différent d'une personne à une autre. Et encore pire avec un homme et une femme. Donc souvent, on va avoir quelque chose, l'homme va l'interpréter d'une certaine manière, la femme va l'interpréter d'une certaine manière. Si on n'a pas conscience de ça, et si on n'est pas guéri, qu'on a encore besoin d'avoir raison, ben là, t'es dedans, là, tu y es, là, dans le conflit. Tu y es dans le conflit. Le conflit va partir, et même si à la fin, tu ne sais plus pourquoi tu t'es disputé, ce que tu sais, c'est que tu as voulu avoir raison. Ça, par contre, c'est certain, ça, tu ne l'as pas oublié. Tu as dit, non, je lâche pas le morceau, je veux avoir raison parce que, tu vois, c'est mon système de sécurité de dire, j'ai raison. Parce que si j'ai pas raison, je me sens mal. Je me sens pas justifié dans ce que je dis. Faut juste que je dise, excuse-moi, j'ai tort. Ah, mais t'avais raison. Et ça arrache le cœur. Ça fait mal. Donc les grilles de lecture sont différentes. Et nous voulons faire les choses à notre façon. C'est ça le problème qu'on n'arrive pas à lâcher. C'est pour ça qu'on n'est pas dans cette conscience de travailler pour notre couple. On est encore des égoïstes, on marche encore individuellement. Nous sommes encore des orphelins. C'est ça la réalité. Alors, eh ben, avoir raison, à tout prix. Même s'il y a un petit peu de mauvaise foi. Légèrement. Pas grave. Le principal, c'est que j'ai raison. J'ai raison, à tout prix. Et là, les arguments, ils débitent, tu vois. On est en train de créer un fossé, tu vois. Tout ça, parce qu'il faut que j'ai raison. Mais on ne se pose pas la question, pourquoi il faut absolument que j'ai raison? Parce qu'on est dans des mécanismes. Et les mécanismes, c'est des habitudes. Et donc, on ne remet pas tout ça en question. C'est simplement qu'on va se fâcher, parce que je vais avoir raison, mais l'autre, il a raison aussi. Non, c'est moi qui ai raison, mais non, c'est moi qui ai raison. Il finit plus. Il faut qu'on prenne conscience de ça, qu'on n'a plus besoin de justifier nos raisonnements, nos arguments pour avoir raison. Ça ne sert à rien, c'est puéril, c'est faire l'œuvre diabolique. Ma solution est la meilleure. Ah oui. Ça aussi, tu vois, comment faire pour dénigrer l'autre? Comment faire pour rabaisser l'autre? Mais ma solution est la meilleure. Et quand même, je sais ce que je fais. Ça fait 30 ans que je fais ça, tu vas quand même pas m'apprendre mon boulot. Tu vas quand même pas m'apprendre ce que je sais faire ailleurs. Donc, mais tu comprends, je t'assomme, je te fais comprendre que toi, ce que tu vis, ce que tu penses, moi, ça je connais bien. On rabaisse l'autre. On rabaisse l'autre pour avoir raison. Alors celle-là, toi tu connais rien. Celle-là, c'est une face, c'est une connue celle-là. De toute façon, toi tu connais rien, toi. C'est dans ton domaine, ça. Laisse faire le professionnel. Bon. Laisse faire les pros. En termes de valorisation de l'autre, on repassera. On a dit, au cours de ces enseignements, un des secrets de la réussite du couple, c'est de valoriser l'autre. Et à cause de nos patterns, à cause de nos dysfonctionnements, à cause de nos mécanismes de défense, on va bien souvent dévaloriser l'autre pour avoir raison. Comme si on avait besoin encore de prouver quelque chose. Des fois, on est loin dans notre marche spirituelle. On est approuvé de Dieu, on n'a plus rien à prouver, mais dans nos petits raisonnements à nous, il faut encore que je prouve que je suis le meilleur. C'est puéril. Ça sert à rien. On est juste des enfants. On se croirait à la cour de récréation. Notre nature égocentrique est souvent agacée, c'est-à-dire irritée, énervée d'avoir à tenir compte de notre conjoint. C'est ça la difficulté du couple. C'est que, avant tout seul, c'est facile la vie. Pas besoin de tenir compte des personnes, que de moi. Et c'est bizarre, je suis d'accord avec moi. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un avec moi qui pense pas comme moi, qui n'a pas la même éducation, qui n'a pas vécu les mêmes choses que moi, qui n'a pas les mêmes souffrances. J'aimerais bien me passer de son avis. Mais ça ne marche pas comme ça. Je suis obligé de composer avec. Et c'est là qu'on va travailler. C'est là que le travail se fait. C'est justement parce qu'il y a une difficulté devant toi que tu vas travailler à changer ton caractère, à changer ta façon de voir les choses, à accepter que tu as tort, qu'elle a raison. Oui, c'est tout ça qui est en jeu. Tu vois, c'est l'orgueil versus l'humilité. Tu vois, c'est tout le fruit de l'esprit versus l'irritation, l'agacement, l'énervement. C'est tout ça qui est en jeu. On n'en a pas conscience. Tout est spirituel. Nos conversations d'une journée sont spirituelles. Qu'est-ce qui gagne? Est-ce que c'est le fruit de l'esprit qui gagne? Ou est-ce que c'est mon état facile d'agacement, d'irritation? Ça, vous savez qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts pour ça. C'est fastoche. On est habitué hein, avec ça. Ça fait X années qu'on pratique ce sport-là. Tu vois? Mais Dieu nous demande d'être transformé, de changer et de ressembler à son image avec le fruit de l'esprit qu'il nous a donné. La patience, la douceur, la bienveillance. Comment je parle à l'autre? Vous êtes déjà posé des questions? Vous êtes déjà, enregistrez-vous un jour. Comment vous parlez à l'autre? On parle de bienveillance. Moi j'aimerais bien que de temps en temps dans vos conversations, vous faites une petite vidéo, tu vois, et après vous pensez bienveillance. Et vous regardez votre vidéo et vous dites, ouh, Seigneur, il y a du boulot.
Non, mais si tu fais la vidéo, tu sais que tu foutes.
Non, laisse la vidéo, tu vas voir. Laisse la vidéo
tourner.
Au bout d'un moment, ta nature va reprendre le dessus. Tu vas oublier la vidéo. Tu vois. Et tu vas voir comment tu parles. Tu vas voir s'il y a de la douceur. Tu vas voir s'il y a de la bienveillance. Tu vois. C'est comme si que on séparait les cases. Quand on parle de ça, on dit, bah oui, c'est vrai, il faut être chrétien, il faut être ici, etc. Puis dans la réalité, on oublie ça, puis on prend nos habitudes. Non, c'est pas ça la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est tous les jours que je suis transformé, je fais attention, Seigneur, je me branche à la bonne source le matin, je prends ma dose d'amour, et c'est pas virtuel, c'est une dose d'amour qui m'amène dans la joie, qui m'amène dans la paix. C'est une culture, c'est quelque chose que je cultive. Et qui vient casser mes mécanismes, qui vient casser mes patterns, mes façons de faire. Même s'il y a 30 ans, même s'il y a 40 ans de patterns, mais Seigneur, tu nous transformes, tu nous changes. Tu comprends? Et ça devient vrai. Et on est en relation intime avec Jésus. Et là, on n'est pas des religieux. On laisse pas. Bon, ben là, c'est l'heure d'aller à l'église. Hop, mon costume de chrétien. Qui arrive à la maison, hop, j'enlève mon costume de chrétien. Et c'est quoi cette affaire? Mais non, on est chrétien du matin au soir pour la vie. Tu comprends? Notre identité, maintenant, elle est en Christ. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est plus dans ce monde. On n'appartient plus à ce monde. Notre identité, elle est en Christ. C'est juste une prise de conscience. C'est-à-dire, Seigneur, mais comment je me comporte? Mais comment j'agis? Mais comment je parle? Est-ce que je reflète ton amour? Est-ce que je reflète ton image quand je parle comme ça, quand j'agis comme ça? C'est ça qu'on a besoin. Il n'y a pas de condamnation là-dedans. Il n'y a pas de jugement. Il y a simplement d'être vrai, d'être authentique, d'être sincère. Qui je suis? Quand vous prenez David, franchement, il n'était pas parfait, le gars. T'es loin d'être parfait. Mais par contre, tu vois, il revenait toujours à son Dieu. Il disait, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde ma voix, il était sans cesse, il voyait qu'il faisait des fois n'importe quoi, mais il voulait revenir à Dieu tout le temps, tu vois, et il demandait pardon, tu vois, il y avait une réelle repentance, et puis il repartait sur le bon chemin. Dieu n'attend pas plus que ça de nous, tu vois. Simplement, là où il y a un problème, c'est quand on est aveugle à notre comportement, qu'on est capable de venir louer le Seigneur ici, et rentrer à la maison, parler n'importe comment, être en colère, être irrité. C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est appelé à avoir des cases? Donc de 6h30 à 7h30, des fois l'église c'est 8h moins le quart, alors jusqu'à 8h moins le quart, je suis dans cette case-là. Puis après je suis dans cette case-là. Puis après je suis dans cette case-là. On est appelé à être chrétien 365 jours sur 365 jours, 24 heures sur 24. Je ne parle pas de perfection. Je parle d'état d'esprit, de mentalité. Et ça va se voir dans mon couple. C'est là où on ne triche pas. C'est là que tu ne triches pas. C'est là que tu vois vraiment si tu es en Dieu, si tu es branché sur la bonne source, si tu as envie d'être transformé, si tu veux être un disciple. C'est dans le couple que ça va se voir en premier. Parce que on doit voir ton comportement changer dans ton couple. Ton conjoint doit voir l'amour que tu as pour lui. Et vice-versa. Et c'est comme ça que le couple va grandir et va se bonifier. Et va rester amoureux. Le couple va rester amoureux. On va pas tomber dans une colocation. Parce qu'on fait sans cesse attention à l'autre. On se sent aimé. On écoute l'autre, on essaye de le comprendre, on fait du cœur à cœur. Le couple, il vit, il prend de la puissance. Et la famille est solide. Et on donne un bon témoignage à nos enfants. Vous voyez l'enjeu qu'il y a derrière? On n'est pas dans le légalisme, là. On n'est pas dans il faut. On dit seulement, il faut que je sois en accord avec les choix que j'ai faits. J'ai donné ma vie à Dieu. Ben voilà ce que ça fait de donner sa vie à Dieu. Il y a des implications derrière. Tu comprends? La mise en pratique. Comme j'ai prié tout à l'heure, tu vois, la maison qui est bâtie sur le roc. Et pas la maison qui est bâtie sur le sable. Il nous faut supporter le côté orphelin de l'autre qui se traduit par une mauvaise humeur, souvent mécontent, éternel insatisfait, bougon, soupolé. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie que l'autre, quelquefois, il est en transformation. Il y a encore son côté orphelin qui ressort. Et des fois, c'est mon côté orphelin qui ressort. Et je me retrouve de mauvaise humeur. Je suis de mauvais poil. Je suis soupaulé. Tu me fais une réflexion, je pars en vrille. Enfin, ouais, ça fait partie de la vie.
Pardon, excuse-moi. Soupaulé, moi, j'écrivais pas comme ça.
Ouais. D'accord. C'est une soupe. Voilà. Et ce qui est important, c'est de comprendre tout ça, qu'on est des êtres humains, donc il y a des moments où l'autre, il a passé une mauvaise journée, et ben il est irrité, il est agacé, et tout ça. Ça fait partie du couple. Tu vois? Maintenant, est-ce qu'on doit rester? Non, on doit en parler. On doit en parler dans le cœur à cœur. On doit en parler parce qu'on est appelé à grandir. Comprendre que. À l'endroit où on est irrité, où on est fatigué, où on est de mauvaise humeur, où on est des éternels insatisfaits, c'est simplement qu'on a été rattrapé par notre cœur orphelin. On n'est pas à la bonne place. On n'est pas dans les bras du Père où on a tout. Tu es avec moi tous les jours et tout ce qui est à moi est à toi. Vous connaissez ces paroles-là? Vous savez dans quoi on les trouve? C'est pour demain matin. Le fils aîné. Oui, fils aîné, qui était devenu dur, qui avait un cœur dur, tu vois. Et pourtant, il était dans l'église. Hein. Pourtant, il était dans la maison du père. Et seulement, il savait même plus que tout ce qui était à son père était à lui. Éternel insatisfait. D'autres choses. C'est plus facile de faire les choses seul. Dès la petite enfance, nous disons souvent, c'est moi qui décide. Quand on essaie de se mettre au rythme de l'autre, on se sent ou freiné, ou poussé, ou retenu. Et c'est une source d'irritation qu'il nous faut prendre en compte. C'est ça les conflits aussi. C'est d'accepter la différence de l'autre. Hein? Quand un est attaché à être à l'heure et que l'autre a le pattern d'être en retard, il va falloir travailler là-dessus. Hein? Parce que sinon, on va s'engueuler tout le temps. Hein? Donc il va falloir ajuster. Un qui fait des efforts pour être un peu plus à l'heure, l'autre qui devient un peu moins exigeant pour être à l'heure. Parce que ça ne se résout pas facilement tout ça. Tu vois? D'autres patterns comme ça, où on est différent, mais on prend la parole de Dieu et on dit. Et on dit qu'on travaille tous les deux par rapport à la parole de Dieu. C'est pas par rapport à nos habitudes dans nos familles, où chez nous on faisait toujours comme ça, donc on doit continuer à faire comme ça. Oh ben moi je suis comme mon père. Non, 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 c'est fini tout ça. On oublie. On regarde la parole de Dieu, ce qu'elle dit, et on essaye de s'appliquer la parole de Dieu dans notre couple. C'est assez simple comme raisonnement. Et ça nous oblige à sortir de notre confort, de notre zone de confort. Ça nous sortir, ce que j'appelle dans le vase restauré, le confort désespérant. Tu vois, un truc qu'on maîtrise, on est en situation, c'est désespérant parce que ça ne nous donne pas des bonnes solutions, mais au moins, on maîtrise. C'est fini tout ça. On apprend à faire confiance à Dieu qui nous sort de notre zone de confort. Notre couple est en chantier parce que chaque conjoint est en transformation permanente. C'est ça la réalité. La réalité, ce n'est pas une question d'âge. Tu vois, tu peux avoir 40 ans dans l'église, tu es en chantier. Tu es toujours en transformation permanente. Nous avons été déformés par le péché, mais en donnant notre vie à Dieu, celui-ci s'est engagé à nous transformer, à nous reformer à son image, si toutefois nous le laissons faire. La question, elle est là. Elle n'est pas du côté de Dieu, le problème. Dieu, il veut nous transformer. Il veut que le fruit de l'esprit arrive à maturité. Tu vois? Mais est-ce que nous, on laisse faire? Est-ce que nous, on lâche prise? Toute la question est là. Est-ce que j'arrête de vouloir avoir raison à tout prix. Est-ce que mon caractère, Seigneur, je veux qu'il devienne doux et humble de cœur, comme toi tu étais. Est-ce que je suis capable de dire, Seigneur, je lâche et je me laisse aimer. Est-ce que je peux me rendre vulnérable avec toi. Est-ce que je peux remettre en question ma vie. Sinon, je t'ai donné ma vie, mais je garde ma vie comme elle est. Une vraie question. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Transforme-la, change-la. Pourquoi ? Parce que le Seigneur va nous donner la vie qu'il a toujours voulu pour nous. Et c'est la meilleure. Et si nous, on l'a fait à notre tête de cochon, si nous, on l'a fait par rapport à nos mécanismes, on se plantera. On deviendra des religieux. On deviendra des pharisiens. On sera comme le fils aîné, avec un cœur dur, légaliste. On arrivera, on verra tout ce qui ne va pas dans l'église, on critiquera et on jugera le frère et la sœur. Parce que nous, on est meilleurs que les autres. C'est ça qui arrivera. Il soigne et il guérit nos blessures, afin que le fruit de l'esprit prenne toute sa place et arrive à maturité. Ainsi, on peut dire qu'un couple se bonifie au fur et à mesure que la restauration de chaque conjoint prend place. Amen. L'espoir dans le couple, il est toujours en avant. Je suis changé de gloire en gloire, comme dit la parole de Dieu. Je ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Le conjoint ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Mais mon couple, mais il va aller de mieux en mieux. Si mon couple ne va pas de mieux en mieux, c'est que je ne me laisse pas transformer par Jésus-Christ. Amen. Merci Clément. Le contrôle et l'agressivité versus l'influence et l'autorité. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que c'est souvent à la source de beaucoup de conflits. Regardez ça. Dieu, à la base, dans le jardin d'Éden, il nous a donné des attributs bien particulier pour l'homme et la femme. L'attribut pour l'homme, c'était l'autorité. Et l'attribut pour la femme, c'était l'influence. C'est les deux choses qu'on retrouve aujourd'hui, sauf que le péché a déformé ses traits de caractère. Alors, regardez. Parce que chacun doit travailler sur sa poutre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec l'influence du péché, l'attribut de l'influence de la femme s'est transformé en contrôle. C'est-à-dire que la femme, qui était là pour influencer l'homme, et vous savez que c'est elle qui avait le plus de pouvoir. Ah oui, c'est subtil. Mais en réalité, qui décide ? Celui qui dit la chose ou celui qui influence ? C'est celui qui influence. Parce que la décision va sortir de l'influence. Sauf que c'est subtil, on ne voit pas. Le gars, il garde, il sauve la face. Quoi. C'est moi qui donne ça, mais c'est la femme qui lui a dit de dire ça. La preuve, c'est que elle a bien influencé Adam. Tu vois ? Mais avec le péché, le problème, c'est que de l'influence, on est passé au contrôle. Donc, mesdames, il faut que vous fassiez attention. Parce que vous avez une tendance à vouloir contrôler. Contrôler sa propre vie. Contrôler la vie de son mari. Contrôler la vie des enfants. Contrôler. Une espèce de contrôle. Parce qu'on se sent bien, enfin, une illusion. Parce qu'on se sent bien quand on a l'impression de contrôler. Et on se sent mal quand ça nous échappe. Tu vois ? Mais attends, il y a pour le mari aussi. D'accord ? Pour le mari, l'attribut de l'autorité s'est transformé en une agressivité. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste dévié. L'influence est passée contrôle et l'autorité est passée agressivité. Et donc, il faut faire attention à nos propos, dans le ton qu'on dit les choses. Parce qu'on a une tendance, sans s'en rendre compte, à devenir agressif dans le ton. Tu vois ? À tel point qu'il y en a qui font peur dans leur famille. Ils ne se rendent pas compte. Tu vois ? Mais, fais pas de bruit, papa arrive. T'as mis le petit pas. Hop ! Il arrive et oh ! Le ton. Tu vois ? Agressif. Vous comprenez ça ? Donc il faut en avoir conscience. Parce qu'on n'est pas là. On n'est pas là pour faire peur. On est là pour imposer une autorité dans l'amour. Autre source d'irritabilité, l'humour versus la susceptibilité. D'accord ? Donc, il faut faire attention à notre humour. On vient d'éducations différentes. D'accord ? Donc, vous avez des tempéraments où il y a beaucoup d'humour. Et puis, vous pouvez tomber avec un conjoint qui n'a pas beaucoup d'humour et qui prend tout ça au premier degré. Tu vois ? Et donc, tendance à vouloir faire un petit coup d'humour et l'autre prend ça mal. Elle prend ça au premier degré. Tu vois ? Donc ça aussi, il ne faut pas trop en jouer. Parce que vous allez rentrer dans des sources d'irritabilité. Tu vois ? Et en plus de ça, la grille de lecture va être déformée. C'est-à-dire qu'à la base, c'est une blague. Et l'autre, dans sa grille de lecture, il croit qu'il est attaqué par l'autre. Qu'il est diminué, que l'autre se fout de lui. Et on est obligé de faire rétro-pédalage pour dire mais non, c'était pas pour toi, c'était pas pour se fiche de toi, c'était une blague. Non, j'ai bien vu là, avec ta blague là, j'ai bien vu, c'était moi qui étais visé là. Donc, il faut en tenir compte. Il faut pas trop en jouer. Hein? Parce que c'est marrant comment quelquefois on est un petit peu, comment on pourrait dire, un petit peu plaisantin. Hein? Quand on sait que l'autre part au quart de tour, on a envie d'en être une petite. Alors, c'est la spécialité de mon fils, là, qui n'est pas chrétien. Alors lui, il est dans l'humour à fond les gamins. Et comme il aime bien sa belle-mère, mais qu'elle, elle a tendance à prendre tout au premier degré, tout le temps, à chaque fois qu'il vient à la maison, il fait une blague. Et tu sais, c'est une blague sérieuse. Comme ça, il rigole pas, c'est sérieux. Elle court. Et après, il lui dit, monsieur, blague, t'as pas compris. Et en fait, bon, il faut faire attention, parce que avec le caractère de l'autre, ben, ça peut dégénérer. Tu vois. Et des fois, tu sens que l'ambiance, tout d'un coup, était un peu plombée. Tu vois. Donc, attention à l'humour versus la susceptibilité. Faut pas trop jouer. Si ta femme est au premier degré, n'insiste pas trop, joue pas aux mains, parce que le couple va pas s'en sortir gagné.
Autre chose,
l'esprit de compétition. Là encore, on a vu que chez l'homme, c'est une spécialité, là, gagner. Tu vois, depuis qu'il est petit, il joue à toute chose. Il faut gagner. C'est comme ça. On a vu que la femme était plus dans la famille, dans la solidarité, dans... Mais on a des couples, quelquefois, qui se retrouvent dans la compétition. Tu vois, et ça vient du monde. Il faut faire attention. Ça vient du monde. On a pas de compétition dans notre couple. D'accord ? Parce qu'on n'est pas là pour gagner. Mais comme on vient avec des patterns anciens qu'on n'a pas toujours résolu et que perdre, vous savez ce que c'est ? Perdre, c'est perdre la face. Perdre la face, c'est avoir une mauvaise estime de soi. Vous voyez comment ? Vous retrouvez le pattern, où est-ce qu'il prend son origine ? Donc, pour ne pas avoir une mauvaise estime de soi, je ne dois pas perdre la face. Pour ne pas perdre la face, je dois gagner. C'est assez logique. Et je reste là-dedans. J'ai quelque chose à prouver. J'ai encore des choses à prouver. Donc, hors de question que je perde. Donc, esprit de compétition. Oui. Par exemple, elle arrive. Erlang, dans les jeux, elle est infecte. Elle sait pas perdre. Non, mais elle va pas dire que j'ai raison. Mais moi, je la connais. Elle aime pas perdre. Il faut qu'elle gagne dans les jeux. Et elle s'est améliorée. Parce qu'au début, elle trichait. Elle trichait pour pas perdre. Je t'assure, t'avais le dos tourné, toc, elle trichait. Le Scrabble, elle m'a inventé des dictionnaires. Le dictionnaire qui était comme ça avec elle, était comme ça le dictionnaire. Elle me disait, non, ton dictionnaire n'est pas à jour. Moi, ça existe, moi. Elle était bonne, elle a horreur de perdre. Tu vois. Donc il y a une espèce de compétition, tu vois. C'est moi le meilleur que si, moi meilleur que toi, je sais mieux que toi, je sais mieux faire le jardin, je sais mieux faire la cuisine, je sais mieux si, je sais mieux ça. Compétition, à fond. L'esprit de compétition. Tu sais, jusqu'où ça s'est retrouvé, ça ? Et dans son boulot. Dans son boulot, elle était commerciale. Commerciale. Que commerciale, il faut gagner. Comprenez ? Quand il y avait, s'il y a un challenge optique de Bourbon, un challenge optique de Bourbon, il faut qu'elle gagne. Hors de question qu'à perdre. Chiffre d'affaires. Allez, on met un chiffre d'affaires. C'est une compétition. Ça se transforme en compétition. On a fait combien aujourd'hui ? Et hop, lendemain, elle va vendre en pensant chiffre d'affaires. Il faut qu'on aille au chiffre d'affaires. À la fin du mois, ouais, on a gagné le chiffre d'affaires. Il attend.
Ouais, j'avais un poste aussi différent.
Compétition !
Excuse-moi, sous-polé, ça existe comme ça ?
Mais c'est dans le dictionnaire du Scrabble. Donc, attention à l'esprit de compétition, parce que ça énerve, mais pire que ça, il y en a qui ont un problème, un pattern, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire que pour gagner, j'utilise la mauvaise foi. Et quand tu lui dis, ça c'est mauvaise foi, elle te dit, ah non, c'est pas de la mauvaise foi, ça. En fait, il y a un esprit de compétition qui est là, qui est pas sain du tout, pour le coup. Tu vois ?
Je me retrouve.
Hey, je ne suis pas une personne de mauvaise foi. Quand j'ai raison, je l'admets.
Elle est pas mal, celle-là, quand même. Hein ?
Autre chose, dans les conflits qu'il faut faire attention, prise de conscience. Vous avez les femmes, ne sont pas comme les hommes. Et on a tendance à l'oublier. Elles montent très vite dans les émotions. Il ne faut pas paniquer. Ok ? Vous êtes l'homme de la situation. Vous êtes l'homme de la maison. Ok ? Rassurez votre épouse. Ne paniquez pas parce qu'elle vous fait paniquer. C'est comme ça. Elle n'est pas comme toi. Ne te dépêche pas à la rassurer. Laisse-la. Accompagne la vague. Elle est montée haut. La vague descend. Coupe pas la vague. Laisse-la descendre. Bien, ma chérie, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Rassure-la. N'aie pas peur. Elle risque de te mettre en mauvaise position parce que devant sa panique, tu ne sais pas comment réagir et elle te déstabilise. Elle te met en porte-à-faux. Ce n'est que des émotions. Ça va passer. Laisse descendre la vague. Cours pas pour la rassurer, cours pas pour, je sais pas, dire des choses et tout qui va lui bloquer ses émotions et puis là ça va être pire parce qu'elle n'a pas pu s'exprimer, elle a des émotions sur la cœur. On n'est pas pareil. Donc, elle risque souvent de réagir très fortement devant une situation. Tu vois ? L'enfant qui se blesse, ou il y a un problème à la maison, ou il y a un problème là. Ça monte. Mais toi, tu es l'homme qui rassure. Tu dis, ma chérie, je suis là. Calme, tranquille, je suis là, chérie. C'est tout. Elle n'a pas besoin d'autre chose. Pas besoin que tu lui donnes des conseils, pas besoin que tu lui racontes. Non. Elle a juste besoin de savoir que son homme est là et que lui, il ne panique pas. Ah oui, bien sûr. Non, mais après, tu quand tu comprends tout ça, tu le fais une ou deux fois et tu vois que ça fonctionne. Tu vois ? T'accompagne. La vague sur la plage. Tout va bien. On est toujours là. On est vivant. Encore une petite chose. Ça aussi, c'est des mauvaises habitudes. Ne facilitez pas le travail de l'ennemi en murmurant ou en maudissant votre conjoint. Ça, c'est une spécialité aussi, ça. Il y a eu un petit accrochage et tout, tu vois. Puis là, pendant une heure, l'autre il entend, tu vois. Et ça énerve, tu vois. C'est pas bon. Tu maintiens un mauvais climat. On se dit les choses et on travaille sur sa poutre, tu vois. Parce que quand on maudit comme ça, on travaille sur la paille de l'autre, tu vois. C'est « Ah, Seigneur, regarde, les chrétiens, mais « Seigneur, regarde, ah, Seigneur, ah, Seigneur, faut que t'interviennes, Seigneur, que change, Seigneur, fais quelque chose pour lui, Seigneur. Ah, Seigneur, faut que t'interviennes, Seigneur, c'est pas possible, ce gars-là, je vais manger, moi, je suis pas, mais je arrêtons de maudire, on est là pour bénir, on est là pour valoriser l'autre, ok. C'est pas des bonnes solutions. Le diable est toujours à l'affût. C'est quelque chose qu'on oublie. D'accord ? Le diable est toujours là à l'affût pour détruire le couple et la famille. C'est la Bible qui le dit. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Son but à lui, c'est de casser le couple. Et on oublie. Des fois, on veut avoir raison. Des fois, on ne travaille pas pour cette belle personne qui est notre couple, pour qu'il grandisse et tout ça. On est en compétition. On veut avoir raison à tout prix. On fait le jeu du diable. Et on ne le sait même pas. Il veut détruire. Il veut ravager nos couples. Parce que si le couple est ravagé, c'est la famille qui tombe. Si la famille tombe, c'est les enfants qui tombent de génération en génération. Quand le divorce rentre dans une génération, il y en a sans doute pour plusieurs générations. Ça va beaucoup plus loin que notre propre petite vie. Il y a beaucoup plus de choses en jeu. Et le diable le sait. Le diable le sait que s'il arrive à casser une famille, on est parti pour plusieurs générations. Alors, quelques mauvaises habitudes à perdre. Le caractère rhinocéros. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir hérité. C'est quoi le caractère rhinocéros ? C'est que je dis quelque chose, je fonce. Vous voyez ? Rhinocéros, avec sa corne, tu vois ? Et là, j'attaque. Ça, c'est des habitudes à perdre. C'est un tempérament qu'on a pu hériter de notre famille, de nos parents, tu vois ? Mais ce n'est pas à garder. Il faut en avoir conscience. Donc, je reçois un reproche, je reçois quelque chose, hop, je sors ma corne, et je fonce. Et attention devant, circuler, il n'y a rien à voir. Et il y a le tempérament. Donc là, on a bien notre rhinocéros qui fonce. Et on a le hérisson, qui n'est pas mieux. Et en général, ça se partage entre les 50-50. Vous allez avoir là, dans la population une grande partie qui est rhinocéros, puis une autre qui est hérisson. Et dans le couple, on a souvent le hérisson et le rhinocéros. Donc il y en a un qui fonce, puis il y en a un qui se met en boule et qui ne se parle plus. Il va dans sa grotte. Et là, il y a du boulot. Hein ? C'est là le travail sur la poutre. Pourquoi ? Parce que ça ou l'autre, c'est des mécanismes de défense hérités. Souvent hérités de... D'abord, moi, je vais vous dire, j'ai hérité de mon père pour le hérisson. Capable de mettre en boule et de bouder pendant une semaine, deux semaines, et plus s'il faut. Tu vois ? Mon père, il a fait un exploit. J'ai appris ça après. C'est que moi, je suis un accident, pas aux yeux de Dieu, mais aux yeux de mes parents. D'accord ? Parce qu'elle avait tout fait, je crois que c'est ligature, je sais pas quoi, tu vois. Puis moi, je sais pas, j'ai dû sauter à un endroit. Enfin bref, je suis né 12 ans après ma soeur, et normalement, mes parents étaient assez âgés, c'était fini, quoi. Tu vois. Et comme mon père a appris ça, lui, il n'a pas accepté tout ça. En fait, il a fait la tête à ma mère pendant 9 mois. C'est chaud, hein, faut le faire. Et ben, moi, j'avais pas fait attention. Mais en fait, j'avais hérité de ça. Et j'en faisais un jeu. C'est-à-dire que si tu me blessais, je me mettais à bouder. Et ça dégageait tellement d'ondes négatives autour de moi que tu pouvais même plus t'approcher de moi. C'était incroyable. Une capacité à mettre un malaise dans la maison terrible.
Et les poils d'hérisson étaient comme ça.
Et il fallait mieux pas que tu t'approches de moi. Parce que ça piquait.
Toi, c'est hérisson.
Non, mais ce qu'il faut, c'est en prendre conscience. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est facile pour nous, parce que ça fait partie de ce qu'on a hérité. C'est dans nos gènes. Donc c'est pas compliqué, c'est facile à faire. Tu vois ? Mais c'est pas la peine qu'on a pour construire notre couple. Alors, ce que je vais vous dire, c'est, ça va vous sembler peut-être compliqué, mais en fait, c'est une question d'orgueil. C'est bien parce que quand on est passé par là, on a pu analyser tout ça, donc j'ai un petit peu d'avance sur vous. Tu vois ? Je dis toujours que l'église, c'est un hôpital spirituel. Moi, je suis déjà passé par les urgences et je suis en convalescence. Mais des fois, il y en a qui arrivent, ils sont aux urgences. C'est simplement aux urgences. Tu vois. Et là, pour ça, je pense qu'on est dans les urgences. C'est-à-dire que, en réalité, et là, ce que je vais vous allez dire, moi, il faut casser ce tempérament en mettant notre orgueil de côté et en allant demander pardon à l'autre. Ça fait mal. Essayez de vous représenter la situation. Donc tu es attaqué, d'accord, tu réagis avec ce que tu as l'habitude de faire, et là je te dis non, arrête ça, va voir la personne et prends-la dans tes bras et on se pardonne.
Quel silence.
Là, parce que je veux que ça monte au cerveau, je veux vous représenter la scène. Que vous allez voir comment ça arrache le cœur. Notre cœur orphelin, évidemment. Pas le cœur de Dieu, mais le cœur orphelin. Et ouais. C'est une vraie question. Est-ce qu'on veut favoriser notre couple ou on veut favoriser notre personne et justifier qu'on a raison ? Il y a un vrai choix. Un choix qui coûte la vie. La vie charnelle de cette terre. C'est-à-dire, par exemple, ce soir, tu vois, comme tu m'as expliqué tout à l'heure, ben là, c'était d'aller voir ta fille, de la prendre dans tes bras.
Pour lui, est-ce qu'elle n'est pas convertie ?
Non, on s'en fout de. Non. Non, mais c'est pas grave. Non, alors je reprends. Là, il est question de ta responsabilité à toi et de ton comportement qui ne doit pas se faire par rapport à la réaction des autres. C'est ton comportement à toi. C'est-à-dire que tu peux très bien aller voir la personne et elle ferme son cœur. Mais c'est pas grave. Tu n'es pas responsable de ce qu'elle fait et de ce qu'elle est. Tu es responsable de toi, protéger ton cœur et de dire, moi, je ne veux plus être ce rhinocéros, moi, je ne veux plus être ce hérisson. Moi, je veux avoir le cœur de Dieu. Donc, je viens et je prends la personne et je lui dis, excuse-moi, je me suis mal exprimé, je me suis mal comporté ou j'ai mal parlé. On se prend dans les bras, on se fait un bisou et c'est fini. Après, si elle ne veut pas, c'est son problème, elle ne veut pas. Toi, tu fais en sorte de ne plus avoir la même réaction, le même comportement.
C'est dur de faire ça, puis on arrive.
C'est dur si tu es charnel. C'est dur si tu le fais par toi-même. C'est pas dur si tu es branché à la source de Dieu. Encore une fois, on pense toujours par nous-mêmes. On pense toujours que wow, c'est dur ce que tu demandes. C'est dur parce que tu es en train d'imaginer que tu le fais par tes propres forces. Tu n'es pas branché à la bonne source. Si tu es, à l'instant que je te parle là, si tu es dans les bras de Dieu, si tu es dans le cœur de Dieu, mais c'est facile. Parce que Dieu te donne l'amour pour le faire. Tu prends une autre dimension. Tout ne se rattache pas à ta petite personne, à tes blessures, à ton mécanisme de défense. Ça prend une autre dimension. Ça prend la vie de Dieu.
Ça prend le pardon.
Ouais. Ça prend quoi ? Ça prend à grandir. Ça prend à ne pas rester au même endroit dans nos blessures, dans nos patterns, et où dans 15 ans on peut y être encore.
Ça marche.
Bien sûr que ça marche. C'est hyper puissant. Il n'y a rien de plus puissant que ça. À condition qu'on mette notre orgueil de côté. Parce que ça fait mal. Alain n'est pas là, ça, je l'aurais fait témoigner. Ça fait très mal. Il a été confronté à ça il n'y a pas longtemps. On le connaît. Mais il a senti toute la résistance charnelle, toute ta chair qui ne veut pas, toute ta chair qui dit non, tu ne vas pas faire ça. Il l'a senti, pour de vrai.
Pourquoi ? Parce que, écoutez-moi. Écoutez-moi deux secondes. Ce que vous faites en faisant ça, c'est de vous couper la racine. Vous coupez la racine du conflit. Vous coupez la racine. L'ennemi ne veut pas que vous fassiez ça. Il veut continuer à alimenter le débat, le conflit. Mais quand vous vous levez et vous dites, ok, je prends sur moi-même, je viens, je prends dans mes bras et je dis, excuse-moi. Parce que des fois, comprenez une chose, des fois, on peut avoir raison sur le fond, mais on s'est mal comporté ou on s'est mal exprimé. Donc, on vient et on dit, excuse-moi, je te demande pardon. Et c'est fini pour la soirée. À l'inverse, si on ne fait pas ça, vous êtes foutu pour la soirée, minimum. Minimum. Mais la soirée est foutue, parce que chacun est dans son coin. Et vous êtes mal, vous ne pouvez pas être bien. Et vous n'êtes pas à la place que vous devez être. Vous n'êtes pas auprès du cœur de Dieu. Vous êtes orphelin. Vous êtes orpheline à ce moment-là. Vous n'êtes pas à la place où Dieu veut que vous soyez. Alors là, tu connais la solution. Et donc, si Fabienne a pu témoigner de l'amour de Dieu dans un pardon complètement difficile, combien pour nous, pour des petites broutilles, on devrait être capable de pardonner. Vous voyez ? Parce que, comme il l'a dit, quand on agit mal, qu'on est rhinocéros ou qu'on soit hérisson, on est mal. On le sait qu'on est mal. Et l'orgueil nous tient prisonniers. On n'est pas libre. Alors Dieu veut nous rendre libres dans l'amour. Et l'amour doit triompher. Donc l'amour doit triompher de notre propre souffrance, de ce qu'on est en train de souffrir, alors qu'on peut couper la souffrance si on met l'orgueil de côté et qu'on remplace par l'amour. Et qu'on va voir la personne. Et là, ce que j'étais en train de dire, c'était pour des choses bénignes, tu vois ? C'est vrai aussi pour les choses importantes, mais à plus forte raison, si Fabienne a pu le faire par la grâce de Dieu, apprenons à le faire nous pour des petites broutilles. Montrons l'amour de Dieu qui est en nous. Hein? Et prenons l'habitude d'aller voir notre conjoint et montrons-lui tout l'amour qu'on a pour lui. En disant, chérie, excuse-moi, j'ai mal agi ou j'ai mal parlé et je te demande pardon. C'est pas compliqué, c'est simplement prendre des bonnes habitudes. Parce que sinon, eh ben, à force, on abîme notre couple. On abîme cette belle personne. D'accord ? Et après, on va pleurer, on va se plaindre de notre couple. Mais on est responsable de notre couple. Et donc, essayons de faire en sorte de travailler sur nous. Et que quand l'attaque arrive, parce qu'Alain a bien parlé de blessure, comme ce soir, qui a été blessé. Oui, on sera blessé. Mais réagissons. De la manière que Dieu veut qu'on réagisse. Faisons-nous mal à nous-mêmes. Mourons à nous-mêmes. Vas-y. Vas-y, tu veux finir là ?
Pour en finir, en fait, j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est pas parfait, tu le sais, c'est pas parfait.
Mais personne n'est parfait là.
Mais je veux dire par là, Dieu, et je pèse mes mots, m'a montré la valeur de ma femme.
Ouais. Amen.
M'a montré. Ce soit un champion émotif, mais cette valeur qu'elle a ma femme.
Amen.
Alors qu'avant, je l'avais devant les yeux et je ne le voyais pas.
Ouais. Ouais.
Je l'ai épousé pour ce qu'elle devait m'apporter.
Amen.
Alors que c'était le contraire.
Ouais.
Et aujourd'hui, elle est tout pour moi.
Amen. Dieu nous a donné notre conjoint. Faut pas le minimiser, c'est un cadeau. Vas-y, Julie.
Oui, on avait besoin de mieux comprendre la situation. Quand un des deux reçoit des paroles qui peuvent faire
blesser,
on doit être capable, nous qui recevons ces paroles, d'aller prendre l'autre.
Alors, toi, si tu veux, ce qu'il faut que tu évites, c'est de te mettre en mode hérisson. D'accord ? Et pour éviter de te mettre en mode hérisson, tu vas voir la personne. Si c'est pas toi qui as fait mal, c'est à toi de lui dire, chérie, tu vois, quand tu as dit ça, ça m'a fait mal. Et c'est à l'autre, après, de dire, j'ai pas fait gaffe ou j'avais pas vu, ben, je te demande pardon. On rétablit la communication. Si tu te mets en mode hérisson, tu coupes la communication. Tu vois ? Là où l'orgueil va te dire, t'es blessé, ben, rentre dans ta grotte et puis vis ta souffrance comme un animal blessé qui rentre dans son terrier et puis qui se cache. Non. Là, si tu veux, tu mets ton orgueil de côté, tu vas voir ta femme, tu vas voir ton mari et tu lui dis, chérie, tu m'as fait mal tout à l'heure. Et c'est pour ça que le cœur à cœur est important. Parce que des fois, ben, on ne peut pas, là, à l'instant T. Il y a du monde, il y a des enfants, je ne sais pas quoi, donc ils nous font un petit temps tranquille, tu vois. Si on peut le faire de suite, tant mieux. Mais en tout cas, le cœur à cœur est très important pour qu'au moins une fois dans la semaine, on apprend à régler nos situations et de façon à ne pas les reproduire et de façon à ce qu'il y ait de moins en moins de conflits entre nous, qu'il y ait de plus en plus de compréhension entre nous, tu vois. Et c'est cette démarche de ne pas couper la communication. C'est cette démarche de ne pas rentrer ou dans la colère ou dans le silence, le hérisson, et d'aller voir l'autre et de lui dire « J'ai pas honte de te dire que tu m'as blessé. » Il n'y a pas d'orgueil à ça. Pourquoi ? Parce que c'est notre couple qui est important. On est ensemble, on est tous les deux. Le cœur orphelin, lui, il va se mettre en mode hérisson et puis il va vivre comme il sait vivre, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, tu comprends ? Mais le cœur de Dieu, celui qui est dans le cœur de Dieu, non, il est là pour travailler pour son couple, il est là pour mourir à soi-même, il est là pour dire à l'autre que j'ai besoin d'être bien avec toi pour que notre couple soit bien. Et donc, je te dis, là, tu m'as fait mal. Et c'est à l'autre de te comprendre. Même s'il ne te comprend pas parce qu'il ne marche pas comme ça, il ne réagit pas comme ça, c'est à l'autre de dire, ben chérie, excuse-moi, je n'ai pas fait attention, je ferai attention à toi la prochaine fois. C'est ça l'amour, le don de soi, pour mettre l'autre dans des bonnes circonstances, dans un mode d'épanouissement. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire, oh ben chochotte, il ne te faut pas grand-chose toi pour... Non, chacun, on respecte les souffrances de chacun, on respecte les endroits où chacun est blessé. C'est son histoire, c'est sa vie, on n'a pas à la juger. Apprendre à gérer la colère, ce qu'on vient de dire avec Axel. Quand nous sommes en colère ou simplement irrités, en général, le cœur orphelin de la petite fille ou du petit garçon n'est pas très loin. À cet instant précis, nous ne sommes pas à notre place, contrairement à ce que l'ennemi voudrait nous faire croire. C'est fondamental, ça. Tu vois, c'est de faire le lien entre mon côté colérique, à l'instant T, irrité, agacé, réaliser que je ne suis pas à la bonne place. Je ne suis pas en sécurité dans les bras de Dieu. Je ne suis pas dans le refuge. Je ne suis pas à l'abri dans la maison. Je suis en dehors de la maison. Tu vois ? Il faut penser au fils aîné. Je suis comme le fils aîné. Je crois que je suis dans la maison, mais je ne suis pas dans la maison. Le fils aîné, vous connaissez, hein ? Retour du fils prodigue, on met toujours l'accent sur le fils prodigue, il faut regarder le fils aîné. Le fils aîné, il est chrétien. Le fils aîné, à la base, il fait partie de la maison. Mais son cœur n'est plus au père. Petit test, comment te sens-tu au réveil ? Te réveilles-tu chaque matin avec le sentiment d'être un fils, une fille, confiante et en sécurité dans l'amour de ton père ? Le matin, est-ce que tu te réveilles avec l'angoisse ? Est-ce que dans quel état tu te réveilles ? Est-ce que tu te réveilles en étant en sécurité dans les bras de ton papa ? C'est un test. Et vivant pour communiquer cet amour aux autres. Ou bien te réveilles-tu chaque matin te sentant sous l'oppression de la peur, luttant avec cette peur d'insécurité, cette peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur, peur de se sentir rejeté, cette incapacité à avoir confiance en toi et dans les autres. C'est fondamental. C'est un petit test à faire le matin pour voir où est-ce qu'on en est réellement. Quel est ton état d'esprit? Comment te sens-tu le matin? Il n'y a pas de triche. Le matin, tu te réveilles. Est-ce que tu es le petit garçon orphelin dans le lit? Peur de ne pas réussir? Peur de l'échec? Peur du jugement des autres, du regard des autres? Est-ce que tu es dans l'insécurité? Ou est-ce qu'au contraire, tu te sens blotti dans les mains du Seigneur, blotti dans les mains de ton papa, et que tu es en sécurité? Passer de l'esclavage et de l'oppression à l'adoption et le fait d'atteindre cette position où tu te lèves le matin et tu te sens tellement aimé, tellement accepté dans le cœur du Père, que le seul but de ton existence est de trouver les moyens de communiquer cet amour à toutes les personnes que tu vas rencontrer. Cela t'éloigne de la colère, de l'agacement, de l'insatisfaction et d'apprécier à sa juste valeur ton conjoint.
Amen.
Ce qu'il nous faut retenir, nous ne sommes pas l'un contre l'autre. Nous sommes ensemble pour rendre notre couple victorieux. Quelques bonnes habitudes à prendre. Travailler sur nos zones de conflit. On l'a expliqué plusieurs fois ce soir. Perdre ses mauvaises habitudes. Ne pas forcer le conjoint à agir comme il ou elle veut. Prier et laisser faire Dieu. Toi, garde ta paix. D'autres se soumettent trop facilement. C'est une fausse communication, une fausse paix. D'autres agissent de cette façon-là. Ils cèdent chaque fois afin de garder la paix. D'accord, on fera comme tu veux. Mais à long terme, ce n'est pas bénéfique pour le couple. Trop de frustration. D'autres encore marchandent. Si tu fais ceci, si tu fais cela, ben moi je ferai ça, je ferai ma part. On n'est pas dans un combat de marchand de tapis. De toute façon, toutes ces façons de faire ne réussissent ni à résoudre le conflit, ni à rapprocher les conjoints. La meilleure solution, c'est toujours de négocier entre nous. Négocier, c'est discuter ensemble du problème et trouver la solution la plus appropriée pour notre couple. Cela veut dire se voir du même côté et non en ennemi. Les 6 étapes pour une négociation réussie, on va les passer rapidement. Choisir le bon moment, cerner le problème, discuter du problème plutôt que de s'attaquer mutuellement, éviter de se coller des étiquettes, éviter le jugement ou l'accusation, respecter le temps de parole de chacun, mettre au point des possibilités et des solutions. Donc évidemment, il faut choisir le bon moment. Pour parler d'un désaccord, il faut éviter de parler devant d'autres personnes, juste avant de partir au travail, en rentrant juste du travail, avant un événement spécial parce que nous sommes sous pression, ou alors tard le soir parce qu'on est fatigué, ou bien pour nous les chrétiens, en allant à l'église le dimanche matin. C'est la spécialité des chrétiens.
Dans la voiture.
Deuxièmement, il faut cerner le problème. Trop souvent, la discussion part dans toutes les directions et on se souvient même plus du sujet initial. Une fois que nous avons mis le doigt sur ce qui nous divise, il faut s'en saisir et placer le problème devant nous et non entre nous. Alors, on pourra y faire face. Pour cela, il faut maîtriser notre colère et notre frustration. Ok ? Il faut qu'on soit dans ce fruit d'esprit. La mauvaise humeur ou les éclats de colère sont très destructeurs. Ils peuvent conduire à des actes de violence et causer la rupture du couple. Le traitement de cette violence est un préalable indispensable à toute véritable discussion. Enfin, éviter de se coller des étiquettes, éviter le jugement ou l'accusation, c'est-à-dire apprendre à parler avec le « je » plutôt qu'avec le « tu ». C'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire, mais on parle beaucoup avec le « tu ». « Tu es comme ça, tu fais ci, tu fais ça ». Et en fait, c'est un jugement de valeur qu'on projette sur l'autre. En fait, il faut parler au « je ». Je ressens que je... C'est moi qui ressens comme ça. Et ça sera beaucoup plus facile d'entamer la discussion plutôt que de taper dans du « tu ». Il vaut beaucoup mieux employer des phrases qui décrivent ce que nous ressentons, des messages qui parlent de soi, de son ressenti, plutôt que d'accuser l'autre. Par exemple, le « toujours » et le « jamais » sont à bannir des conversations. Elles ne servent qu'à diminuer l'autre. Tu es toujours comme ça. Avec toi, c'est jamais comme ça. Je suis irrité parce que tu ne m'as pas aidé à nettoyer. Passera beaucoup mieux que « de toute façon, tu m'aides jamais ». Je m'énerve quand on arrive en retard. produira des effets positifs escomptés, alors que tu nous fais toujours arriver en retard est très culpabilisant. Respecter le temps de parole de chacun. Dans une discussion, on tient à ce que l'autre comprenne notre point de vue, mais on est moins pressé à comprendre le point de vue de l'autre. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Ce n'est qu'en faisant l'effort de nous écouter mutuellement que nous pourrons passer des accusations et des critiques à la compréhension. Le chiffon blanc, ça c'est pour ceux qui ont du mal. On prend le chiffon, celui qui a le chiffon a la parole. L'autre n'intervient pas. Il rend le chiffon après, il donne à l'autre. Réfléchir en termes de solutions. Quand on se concentre sur le problème, on est surpris du nombre de solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Décider quelle solution paraît la mieux adaptée à la situation présente. L'essayer, voir si ça marche pour votre couple. Et alors le sujet cessera de créer des conflits entre vous. Évaluer à terme le résultat. Si le conflit persiste, il faut envisager une autre solution. Ne jamais abandonner la communication. Toujours nous parler pour trouver des solutions. Mettre notre orgueil de côté et privilégier l'amour. Attention aux pièges, avec les attentes qu'on a envers nos proches, qui deviennent des exigences. Les exigences se transforment en déceptions et les déceptions se transforment en accusations. Attention à ce modèle de conversation, ce modèle où le conflit va éclater parce qu'il y a trop d'attentes envers l'autre, on a trop d'exigences, donc on est déçu et comme on est déçu, ben on finit par accuser. Toujours penser, comme on vient de le dire, à notre relation avec Dieu. C'est fondamental. On doit toujours savoir où est-ce qu'on est. On est toujours dans les bras de Dieu. On est toujours une relation avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut une relation parfaite dans notre vie. C'est-à-dire qu'on aura des problèmes avec notre conjoint, des problèmes avec notre conjointe. On aura des problèmes avec nos enfants. On aura des problèmes avec tous les êtres humains. C'est la vie. Mais par contre, il y a une relation qui est au-dessus de tout. C'est la relation avec Dieu. Et donc, pour lâcher, pour ne pas s'embrouiller avec tout le monde, ok, on accepte, on ne cherche pas à avoir raison à tout prix, et quelquefois on sera dans l'injustice, quelquefois on aura privilégié l'amour, et quelquefois donc on sera mort à nous-mêmes, mais il n'empêche qu'on peut souffrir à cet instant-là. Et là, il nous faut le refuge, il nous faut l'abri sûr. Il faut toujours qu'on ait cette relation avec Dieu. C'est là qu'on va aller se recueillir. C'est là qu'on va aller pleurer. C'est là qu'on va aller dire notre misère. Tu vois ? Parce qu'on sera victime d'injustice. Il ne faut pas se leurrer. Même avec la personne qui nous aime. On sera victime quelquefois de reproches qu'on va qualifier d'injustes. On va avoir des problèmes de communication. C'est normal. La terre est imparfaite. La terre vit sous les ténèbres. Et on n'est pas immunisé. C'est pour ça qu'il nous faut entretenir la relation avec Dieu. Il nous faut une relation qui est au-dessus de celle des êtres humains pour pouvoir toujours se réfugier avant de faire éclater la colère, avant de faire le hérisson, avant de tomber dans les pièges de l'ennemi. Je me réfugie dans les bras de Dieu. Et là, tout va bien. Tout va bien. Ça va. Dieu est là. Je suis dans les bras de Dieu. Et ça va éviter de beaucoup d'embrouilles, de beaucoup envenimer les conflits. On va juste faire une pause dans nos émotions, dans tout ça. Waouh ! Et on va se réfugier dans les bras de Dieu. Et là, votre couple va durer. Là, votre couple prend le bon chemin. Parce que chacun est à sa place, chacun a son abri, chacun sait où est-ce qu'il doit se recueillir.
On appelle ça la corde à trois fils.
Yes. Pour finir, un petit peu de poésie dans ce monde de brut. Si tu me dis un jour que tu es fatigué, je me ferai repos. Si tu me dis que ma présence te pèse, je me ferai silence. Si tu me dis que mon visage te lasse, je me ferai beauté. Si tu me dis un jour que ton amour s'envole, je me ferai désir. Si tu me dis j'ai faim de tes baisers, je me ferai tendresse. Si tu me dis que ça ne va toujours pas, je ferai des miracles. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, comment le saurais-je ?
Oh, c'est beau !
C'est un
poète.
Amen.
Amen.
ça, ça va être une piqûre.
Chérie, on peut prier pour la souffrance. Tout à l'heure, ça m'a fait chaud au cœur d'Alain, de sa fille, qu'il y aura la réconciliation.
Oui, mais c'est pas... Alain, il va travailler à ça. Il aime sa fille. Il aime tellement sa fille. C'est l'amour en application, Alain. L'amour en action. D'aller voir ta fille et dire, je t'ai parlé, peut-être que je t'ai parlé un petit peu mal tout à l'heure. Je te demande pardon. Amen. Amen, Seigneur. Nous prions pour Alain, Seigneur. Nous prions pour ce cœur encore blessé, ce cœur orphelin qui attend encore beaucoup de choses, qui est beaucoup dans l'attente. Seigneur, aide-le. Aide-le à être satisfait en toi. Aide-le à se reposer sur toi. Aide-le à accepter les gens autour de lui comme ils sont, de les aimer comme ils sont et de ne pas avoir trop d'attentes. Aide-le à devenir ce cœur de père, ce cœur de papa, ce cœur d'amour qui vient chercher ce qu'il a besoin en toi en étant branché à la bonne source. Aide-le, Seigneur. Aide-le à changer ce cœur de pierre qu'il avait en cœur d'amour, en cœur de chair. Seigneur, il est en voie de transformation, Seigneur, je le sens. Et Seigneur, il va encore nous surprendre. Il va encore se surprendre. Il va encore surprendre sa femme. Il va encore surprendre ses enfants parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime vraiment. Seigneur, tu vas l'aider, Seigneur. Et tu vas aider chacun d'entre nous ce soir à mettre en application tout ce que tu nous as appris ce soir. À rentrer dans ce cœur d'amour, à ne pas être dans l'orgueil, mais au contraire d'être dans l'humilité, à savoir aller demander pardon parce qu'on a mal parlé, à demander pardon parce qu'on n'a sans doute pas utilisé la bonne façon de faire, à mettre fin au conflit parce que notre couple n'est pas destiné au conflit, mais notre couple est destiné à être cette belle personne d'amour. Seigneur, transforme-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Change notre cœur. Qu'on puisse abandonner nos mécanismes de survie. Nous étions des orphelins. Nous étions dans un monde où on a appris la survie. Mais maintenant, nous voulons vivre vraiment. Nous voulons bénéficier de notre conjoint vraiment. Ce cadeau que tu nous as donné, Seigneur. Nous voulons vraiment que notre couple soit vraiment à la hauteur de ce que tu attends de nous, Seigneur. Et pour ça, nous venons dans tes bras d'amour. Seigneur, change nos comportements. Change nos façons de faire. Et que l'amour triomphe. Que l'amour triomphe dans notre couple afin que les autres autour de nous voient que en Christ, c'est différent. En Christ, le couple est différent. En Christ, il y a une plus-value parce que tu nous rends capables, Seigneur. Tu nous rends capables. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour tout ce que tu nous as montré. Aide-nous seulement à être obéissants. Aide-nous seulement à nous brancher tous les jours à la source d'amour afin de pouvoir mettre en application tout ce que tu nous apprends, Seigneur. Et nous serons plus que vainqueurs avec toi. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour vos témoignages. Merci pour tout ce que vous apportez. Vous bonifiez ces enseignements. Le Seigneur est bon. Amen. Et il veut que nos couples soient des couples forts et heureux. Amen.
Épanouis.